Merci à mon collègue à côté, puis à Michel Rioux et à Dorval de m'avoir invité. J'ai appris beaucoup de choses intéressantes, à côté desquelles ce dont je vais vous parler dans les minutes qui suivent va sembler peut-être bien banal. Ça m'a permis de faire un peu une mise à jour des quelques connaissances que j'avais. Et je termine la journée bien enrichie, mais un petit peu perturbée. D'abord, Michel a commencé à parler de triangle impossible. J'aime beaucoup Michel, j'aime beaucoup Dorval. Voilà que le triangle est impossible. Je m'en vais repartir tout triste. Il a parlé d'un confort intellectuel avec tout ce dont vous avez décrit comme situation. Alors, je vais peut-être poser des questions sur ce que suscite ce qu'on a entendu aujourd'hui. La première question que je me pose quand on lit commerce et clause sociale, c'est de dire, bon, si cette clause sociale est importante, si elle génère tant d'efforts et de créativité au niveau des instruments, c'est qu'il y a sans doute un grand péril en la demeure. Et là, je me dis, quelle est la nature du péril ? Parce que finalement, si l'on regarde au niveau de l'emploi, depuis les accords de libre-échange de 84-85, le taux de chômage ne s'est pas porté plus mal qu'il se portait auparavant. Il se porte même plutôt bien depuis quelques années. Donc, la première question qu'on se dit, c'est il y a péril sans doute, mais il faudrait peut-être le préciser un peu plus au niveau des impacts sur l'emploi, puisque finalement, la situation n'est pas catastrophique. Mieux que ça, on regarde depuis les accords de l'Allée et autres, on observe que dans l'ensemble, et puis c'est là peut-être où il y aura des précisions à apporter par mon collègue de la CSL, mais d'un point de vue général, l'emphase a beaucoup été mise sur les droits collectifs du travail, le régime collectif des relations du travail, la question de la liberté syndicale ou de la non-liberté syndicale. D'un point de vue, on pourrait dire, fonction publique, ce qu'on observe, c'est que depuis 1985, dans l'ensemble, les droits du travail ont progressé, les droits individuels, collectifs. Bon, on ferait savoir ce qu'on entend au point de vue droit, qui est différent du taux de syndicalisation. Mais juste pour mentionner les normes minimales du travail, il y a une étude du ministère du Travail qui a été faite il y a un an, ont augmenté partout au Canada. Il y en a très peu, il n'y en a pas qui ont été à la baisse au niveau des normes individuelles. Il y a même de nouveaux domaines qui sont apparus depuis les années 80, la santé-sécurité, la progression et l'organisation des métiers réglementés, l'équité salariale, le harcèlement psychologique en milieu de travail, l'équité en emploi. Ça fait quand même beaucoup de choses qui ont progressé envers ou par-delà l'existence d'accords. Alors, évidemment, ça, c'est au niveau canadien. Au niveau américain, ça n'a peut-être pas progressé autant, certainement pas. Bon, mais je ne dis pas que ça n'a fait que progresser. Il y a l'article 45, la modification, il y a diverses choses qui se sont produites. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de recul. Un salarié, la question salariale mise à part, vit un milieu de travail sans doute mieux protégé aujourd'hui en 2012 que cela n'était en 1978-79, alors que la CSST n'existait même pas. Bon. Donc, d'un côté, on dit le taux de chômage se maintient, de l'autre côté, on dit les normes et les conditions de travail progressent, et de l'autre côté, on dit, bon, il y a la question du Sud. Ça, c'est vrai, et on se dit, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la question du Sud, comme ça l'a été plusieurs fois soulevé en comparant l'Europe et les autres, est-ce que ce n'est pas une question de développement général du travail ? Et si c'est une question générale du travail, quel rôle peut jouer, quels que soient les types d'accords qui ont été mentionnés, pour faire progresser cela ? Et c'est là où on se dit, comme de l'extérieur, il y a un gros emphase sur les sanctions. On sait que les sanctions économiques, ça peut marcher, mais il faut forcer beaucoup. L'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, il a vraiment fallu forcer longtemps. Saddam Hussein a été isolé économiquement pendant 10 ans. Alors, la question des sanctions, on se dit, est-ce que ça ne prend pas trop d'importance, trop d'obsession ? Parce que de l'autre côté, c'est vrai qu'on parle de la coopération, mais on ne fait qu'en parler. La coopération, on ne fait qu'en parler, ça a été dit tout à l'heure par vous, monsieur, vous avez mentionné l'absence de moyens de coopération. Et là, est-ce qu'il ne faudrait pas, quand on juge la coopération, la juger de façon réaliste ? Dans l'ensemble des pays industrialisés, y compris au Canada et sans doute au Québec, les budgets des ministères du travail sont inexistants. Il y a à l'heure actuelle aux États-Unis 1200, 1300 inspecteurs du travail. Il y a des inspecteurs du travail en Haïti qui restent au bureau. On dirait pas payés à rien faire, parce qu'ils ne sont pas payés. Mais en plus de ça, si vous voulez les inspecter, ils n'auraient même pas d'argent pour prendre un ticket d'autobus. Alors il me semble qu'il y a une question qui n'a pas été soulevée, mais qui serait intéressante, c'est de dire, quand on parle de coopération, de quelle forme de coopération parle-t-on ? Celle que j'ai vécue en étant à l'ALENA, à Dallas, au Texas, c'était ce que j'appellerais la coopération des petits fours. On fait des réunions, on fait des conférences, c'est très intéressant, mais ce sont que des gens très intéressants, les mêmes d'ailleurs trop souvent, ça, à la fin ça devenait un peu l'agence de voyage, qui se réunissent, mais ça ne filtre pas du tout. Avec le même budget, on aurait peut-être pu faire venir héberger au Québec des salariés qui seraient devenus, qui auraient acquis des notions de base en santé et sécurité au travail, comme certains instituts allemands le font. Ils l'ont fait avec des délégués syndicaux mexicains. On aurait pu former des inspecteurs du travail, mettre sur pied un système d'enregistrement électronique des plaintes. Enfin bref, pour que le système ait... Ça m'amène à un autre constat que j'ai entendu aujourd'hui. Puis, ceci dit, tout était très intéressant aujourd'hui. On dit avec les accords, le Mexique ne respecte pas. C'est vrai qu'il y a 3, 4, 10, 20 usines au Mexique qui ne respectent pas. Mais jusqu'à quel point il faut condamner le Mexique ? Il y a tous les jours des gens qui se font pincer parce qu'ils ne respectent pas les normes du travail au Québec. Est-ce qu'on dit pour autant qu'il faut condamner le Québec, il faut qu'on émigre ? La question c'est vrai qu'il y aura toujours des voleurs et des tricheurs, mais la vraie question c'est que fait-on pour les empêcher ? Et là on vient avec la question de quels sont les moyens qui existent. Le budget du ministère du Travail du Mexique, 70% venait de fonds de l'OIT. Le 30% restant, c'était pour chauffer les bâtiments, ou les refroidir plutôt, ça dépend de la période. Donc ce que je me dis, c'est qu'il y a un peu parfois un écart grand entre l'analyse et le bilan de la situation que l'on fait, et on devrait plus passer au spectre les moyens qui sont mis à la disposition pour réaliser concrètement la mise en œuvre de ces accords, et viser, comme ça se fait dans n'importe quel organisme public en général, viser un ensemble de résultats au bout de 4, 5, 6 ans, combien d'inspecteurs on a fait. C'est certain qu'au Mexique, il va y avoir tous les jours des entreprises qui ne respectent pas la santé et sécurité. Mais ce serait autre chose si on les aidait à monter une CSST avec des indicateurs, un plan stratégique, puis voir si dans l'ensemble, le pays avance. L'autre problème qu'on oublie toujours dans ces accords, c'est ce qu'on appelle le secteur informel. C'est un problème... Alors évidemment, derrière ça, il y a la question du financement. Comme on le sait, il n'y a pas beaucoup de sous qui existent. L'ANAC, c'est un très bel exemple qui va un petit peu conclure puis laisser la parole à mes collègues ici. L'ANAC, quand ça a été négocié, bon, vous savez, ça avait été négocié par le gouvernement avant, gouvernement Bush père. Puis finalement, Clinton a dit au dernier moment, moi, ça me prend un accord sur le travail pour le faire adopter par mes copains au Congrès. Alors, il a dit aux Canadiens et aux Mexicains, rasseyez-vous avec nous, on va négocier ça. Les Canadiens et Mexicains n'étaient pas très chauds, mais Clinton leur a dit, si vous voulez faire juste l'accord entre vous deux pour le libre-échange, ben faites-le. Bon, là, ils se sont dit, on va négocier l'accord. Au niveau du Canada, il y avait le gouvernement fédéral qui voulait signer l'ALENA, donc il a consulté les provinces. Il n'y avait qu'une seule province qui était pour un accord sur le travail, le Québec. Les autres étaient conservatrices, disaient « l'accord sur le travail, on n'en a rien à cirer, du moment qu'on a l'accord commercial ». Quant aux provinces NPD à l'époque, c'était l'Ontario et la Colombie là-bas, oui. C'est ça, comme ils étaient contre l'ALENA, c'est la Colombie-Britannique, comme ils étaient contre l'ALENA, oui. Ils se sont dit « on est contre l'accord de libre-échange, l'accord du travail qui va avec, donc on ne veut rien savoir ». Puis ils avaient le principe tellement haut que M. Bobray, à l'époque, quand le négociateur canadien de l'ANAC est rentré dans une salle, il est sorti pour montrer qu'il ne fréquentait pas les gens qui se salissaient. Bon. Pour dire à quel point l'idéologique... Alors, évidemment, l'accord sur l'ANAC, on dit qu'il n'a pas de dents. Et le mouvement syndical, à l'époque, dans l'ensemble, il disait la même chose. Un peu comme le NPD. On est contre l'ALENA, donc on est contre l'ANAC. Alors, la question que je vous pose, pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'emmerde à faire un accord qui a des dents, s'emmerde à faire un accord qui a une reddition de compte quand personne ne demande rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Un petit accord, 15 personnes maximum, c'était marqué dans l'accord. Le seul qui ne l'avait pas lu, c'est le promoteur immobilier à Dallas qui a fait un deal parce qu'il pensait que Dallas allait devenir la Bruxelles de l'ALENA. Il n'a pas lu l'accord, il a marqué 15 personnes. Un budget de 2 millions par pays. Et on ne peut pas augmenter le budget si tout le monde n'augmente pas sa part. À un moment donné, en 99, on voulait l'augmenter. Le Mexique disait non, on est fauché. Les Américains disaient on paye pour toi, pas question, on est souverain. Donc on est resté à 2 millions de dollars. C'est tout. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 millions de dollars? Ce n'est pas les experts, les spécialistes qui tournent autour de nous, parce qu'on n'a pas grand-chose à payer avec ça. Il y avait les mouvements de, on pourrait dire les grassroots, qui auraient pu être intéressés par nous, mais ça effrayait tellement les trois ministres qui venaient, qui sont repartis à Washington pour être dans un endroit plus civilisé que Dallas, au moins là on rencontre des gens bien. Mais à la base, ce qu'il y avait, c'est une indifférence sociale totale par rapport à ce genre d'accord. Donc on dit qu'il n'a pas de dents, forcément. On lui a limé les dents dès le départ. On l'a dit, on veut un prématuré, et puis ça fera l'affaire. Après, on a dit, l'accord n'a pas de dents pour l'application. Forcément, l'application des plaintes qui ont été faites, c'était juste pour prouver que les plaintes n'aboutissaient à rien, donc c'était pas bien. Et encore, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes ou qu'il n'y en a plus, mais il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'aide. Comment voulez-vous qu'un simple salarié démuni ou un syndicat qui n'a pas de sous porte une plainte? Ici, si quelqu'un a un problème en droit du travail, ben, il va à la CNT. Puis si sa cause est reconnue comme valable, ben, il y a quelqu'un, les avocats de la CNT portent sa cause. Au Mexique, si quelqu'un a un problème, une plainte à porter, il y a une personne qu'on connaît tous, c'est Hans Compa, qui était l'agitateur professionnel. C'est lui qui dirigeait les plaintes de tout le monde. C'est un expert en droit. Sinon, donc, on dit, on critique, ça ne marche pas, mais parce que ça a été construit pour ne pas marcher. Et ça a été construit pour ne pas marcher parce qu'on n'a rien demandé au gouvernement. Pour conclure, regardez l'environnement. 50 personnes, ils peuvent faire des rapports qui ont critiqué, comme ils ont critiqué au Mexique, un bateau qui allait démolir les coraux, je ne sais plus quoi, des croisières. Parce que les groupes environnementaux ont dit, aux trois ministres, aux trois pays, on appuie l'accord, mais il faut quand même que ce soit un accord qui ait une existence réelle. Là, ils n'ont pas eu le choix, avec un conseil consultatif qui a un droit quand même de parole assez clair, en travail, soit on est complètement contre d'un point de vue conservateur, soit d'un point de vue, on pourrait dire, plus à gauche, qui est très sympathique, très, très bien, mais qui laisse les gouvernements tout seuls dans leur coin. Alors forcément, ils vont choisir pour une voie tout à fait... Et la question de fond, c'est des ressources permanentes, régulières, pour monter un vrai ministère du Travail, pour monter une vraie CSST, pour monter une vraie commission des normes, dans chacun des pays concernés, pas un petit voyage à l'occasion. Voilà.